Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Bonjour Oxmo Puccino.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation du Festival du Premier Roman et en particulier cette rencontre qui là se situe en particulier dans le cadre de la journée de réflexion du Festival, qui est une journée autour de la thématique des croisements des modes d'expression artistique. Alors, j'ai bien vu qu'il y avait des fans déjà. Je pense que globalement tout le monde vous connaît, donc je vais pas, tout le monde vous identifie comme musicien, comme chanteur, avec bientôt 25 ans d'activité intense, donc je vais pas retracer votre parcours en détail, mais j'aimerais quand même rapidement, en guise d'introduction, par rapport à la discussion qu'on va avoir et à la thématique de la journée, rappeler souligner quelques points qui, à mon avis, explicitent pourquoi vous êtes particulièrement qualifié pour être présent à cette journée, puisque le mélange des genres et un côté touche-à-tout vous caractérise indubitablement, une curiosité qui vous pousse à dépasser l'horizon pour aller plus loin que le bout de son nez. Peut-être certains ont reconnu un vers d'une chanson. Donc côté musique, on vous situe du côté du rap, évidemment, votre influence majeure, votre famille, mais dès le premier album, Opéra Puccino, en 1998, le public et la critique relèvent aussi vos accointances avec la chanson française, accointances qui vont d'ailleurs vous donner un temps le surnom de Black Jacques Brel, une époque sans doute aussi où certains avaient besoin d'apprivoiser le rap, voire de se rassurer un petit peu sur sa fréquentabilité. Et au fil de vos albums, on s'aperçoit que vous ne vous laissez pas facilement enfermer, vous variez vos sonorités, vous variez la couleur et la tonalité de vos textes, vous intégrez volontiers, et on est déjà dans la thématique de la journée, diverses influences musicales qu'on peut juger parfois très éloignées du rap. Quand on regarde par exemple vos collaborations, on trouve, bien sûr, il y a de nombreux feats avec des rappeurs, mais aussi des groupes ou des musiciens de jazz comme Eric Truffaz, comme Ibrahim Malouf, comme le groupe Jazz Bastard qui donnera lieu à un album, le Lipopet Bar. Des collaborations avec des artistes variés, comme par exemple, parmi d'autres, Alizé, Florent Pagny, Benjamin Biolay, Bernard Lavilliers, Olivier Ruiz, qu'on a reçu ici l'année dernière, ou récemment, Denis Prigent, qui est un chanteur breton. Et surtout, traversant tout ça, à vous écouter, à vous lire, on voit bien qu'apparaît chez vous un goût évident pour les mots, une attention particulière à l'écriture, à sa qualité, à son émotion, à sa musique. Vous vous définissez comme un poémien, à tel point d'ailleurs qu'on peut, on pourra peut-être même se poser la question de savoir parfois si vos mots ne se suffisent pas à eux-mêmes. D'ailleurs, les éditions Au Diable Vauvert ont repris un certain nombre de vos textes issus de différents albums dans ce petit opuscule qui s'appelle Mine de Cristal. Et pour qui ne sait pas que vous les avez mis en musique, on peut le lire tout à fait, me semble-t-il, comme un recueil de poésie contemporaine. On discutera donc, parce que c'est ça qui sera intéressant dans cette journée, des rapports entre le texte et la musique, des rapports et des apports de l'un et de l'autre. Et même, on discutera aussi de leur façon de mettre en scène vos chansons, puisque elles sont destinées à être représentées, que ce soit justement sur scène dans un concert ou pour certaines dans un clip. Et on imagine que c'est aussi un type d'écriture, un type d'écriture visuelle qui soulève d'autres leviers et qui fait d'autres résonances entre les différentes sensibilités artistiques que vous avez et l'écriture. Ce goût d'écriture vous a aussi amené, vous a conduit de la chanson au roman, avec ce roman dont on parlera aussi, qui s'appelle Les Réveilleurs de Soleil, publié aux éditions Jean-Claude Lattès dans la collection La Grenade. Et donc, c'est aussi un texte dont vous donnerez demain une lecture musicale. Et on peut dire, dans un raccourci avec un jeu de mots un peu facile, hein, mea culpa, mais je ne voulais pas la rater, que vous êtes passé du label musical et collectif rap de vos débuts qui s'appelait Time Bomb à la collection La Grenade. Donc un parcours évidemment explosif, éclaté en tout cas en de nombreuses trajectoires qui forment finalement un tout cohérent et qui se nourrissent les unes les autres pour un univers foisonnant. Pour terminer cette rapide présentation un peu factuelle et vite brossée, il faudrait évoquer aussi plein d'autres choses qui peuvent entrer dans, dans le cadre de la conversation. Peut-être est-ce qu'on aura le temps d'en dire deux mots, mais vous avez aussi exploré d'autres façons d'écrire. Par exemple, vous êtes réalisateur, vous avez réalisé des courts-métrages, une publicité aussi, où d'ailleurs il est question de l'univers des contes. Vous êtes aussi animateur de, d'émissions. Vous avez une émission qui s'appelle, sur France TV, qui s'appelle Bâtiment B, où vous invitez régulièrement des rappeurs et des rappeuses de toutes nuances. Vous écrivez et lisez des textes dans l'émission Clic de Mouloud Achour. Et puis, vous avez aussi enregistré des podcasts. Là aussi, on pourra en dire deux mots, parce que j'ai trouvé que ça, c'était tout à fait intéressant et complémentaire de votre univers, qui sont presque des podcasts sociologiques, mais qui sont également extrêmement touchants, j'ai trouvé, en termes d'humanité. Ça s'appelle « Les histoires de quartier » d'Oxmo Puccino, et on peut retrouver ces podcasts sur Arte, Arte Radio. Et enfin, pour ne rien laisser de côté, vous êtes aussi acteur, puisque vous êtes à l'affiche d'un film assez récent, un film mi-fiction, mi-documentaire, qui est sorti en février de cette année, qui s'appelle Une fleur à la bouche, qui est réalisé par Éric Baudelaire, un nom presque prédestiné, et qui est adapté d'une pièce de Luigi Pirandello. Donc on est encore dans cet univers littéraire. Donc voilà, l'idée c'est de voir comment toutes ces activités artistiques que vous avez se mélangent, se répondent, se complètent, s'enrichissent évidemment, partant de l'écriture, pour voir comment tout ça traverse, vous traverse, et comment vous arrivez à en faire quelque chose. Alors, par où est-ce qu'on va commencer? Peut-être on peut commencer par le début, par l'écriture, justement. À partir de quand, Oxmo Puccino, est-ce que vous avez écrit, et comment est-ce que vous avez pris goût à l'écriture?
J'ai pris goût à l'écriture, c'était inné, mais j'ai pris goût à l'écriture à l'école. D'abord au collège, parce que j'ai toujours eu de l'attrait pour ça, mais j'ai eu la chance d'avoir une professeure qui était professeure de grec, de latin, et qui était passionnée de français, et qui nous a transmis ce plaisir, sa sensibilité, et surtout l'importance d'avoir une certaine maîtrise de son langage, de ce que ça pouvait changer dans une vie tout entière, de savoir de quoi on parle et comment en parler. Et donc, à partir de là, j'y ai prêté attention. J'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a toujours rapproché de la lecture. Et un jour, en seconde, j'ai eu une note en français qui m'a surpris, en commentaire composé. Une bonne note que j'ai eue sans le faire exprès. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose. Et un jour, quand je me suis mis à la musique, je m'y suis mis assez tard par rapport à mes congénères, il fallait que je fasse la différence autrement que par la technique, et tout ce que j'avais c'était le texte. Donc je suis arrivé avec des textes différents en attendant de savoir chanter.
Mais je crois que la première chanson que vous avez écrite, c'était pas pour vous-même.
Non, c'était pour une amie qui m'a, c'est celle qui m'a mis le pied à l'étrier d'ailleurs, et qui m'a demandé de lui écrire des textes à ma grande surprise. Je me suis prêté au jeu. Et peu à peu, j'ai changé d'auteur pour les diriger vers moi.
Et alors, à partir du moment où vous êtes mis à écrire des chansons, des textes, vous n'avez plus arrêté?
Non, je n'avais aucune raison d'arrêter, vu que j'avais un public qui prenait de plus en plus de place dans mon cœur et sur Terre. Et c'est drôle parce que je pensais faire ça sans... Je pensais faire de la musique et écrire sans faire les projets. Et peu à peu, quand j'ai connu un moment de questionnement, ces moments où soit on arrête, soit on continue, c'est le public qui m'a fait continuer à écrire et à faire de la musique.
Est-ce que vous considérez que vous avez grandi dans l'écriture? Il y a un texte d'une chanson, c'est Tito sur l'hypopée de Bar, où vous dites que les gens disent, alors je me souviens plus des deux premiers vers, mais c'est les gens disent que ton histoire est déjà écrite, mais ils oublient que le stylo, c'est le coin où tu as grandi.
Ouais, ouais.
Pour vous, c'est ça?
Disons que c'est un mélange du lieu où j'ai grandi, qui était très très riche, et de cette curiosité. Et cette curiosité qui donne envie de découvrir et de comprendre où nous en sommes, où nous sommes. Et l'histoire, je suis passionné d'histoire aussi. Enfin, tout ça se rejoint. Tout ça se rejoint. Et en fait, c'est le fil qui lie toute cette matière qui me passionne. Pour moi, tout est connecté, d'une manière ou d'une autre. Et il suffit de trouver le pont. Et ça, à partir de ce moment-là, tout devient logique. Et pour moi, c'est des grandes clés de compréhension globale. Voilà.
Alors justement, qu'est-ce qui, quand vous faites une chanson, qu'est-ce qui fait que ça devient une chanson? Est-ce que vous écrivez des textes plus ou moins aboutis, que vous reprenez? Comment est-ce que ça se passe, la création d'une chanson? Est-ce que les textes, c'est le texte qui vient d'abord, la musique après? Est-ce que ça peut être l'inverse? Comment est-ce que tout ça résonne justement?
Soit par une phrase qui me tombe dessus dans une conversation, une phrase simple, une expression, un échange, soit un sujet qui n'a jamais été abordé d'une manière qui puisse me plaire. Voilà. Par exemple, j'avais écrit une chanson à l'époque pour parler de la pauvreté, et donc je me suis dit que c'était trop frontal et que ça pouvait être maladroit d'en parler de cette manière-là, que ça pouvait être mal compris. Et au cas où, je me suis dit, pourquoi pas remplacer le mot pauvre par chauve et remplacer la peur de perdre l'argent par la peur de perdre des cheveux. Et c'était aussi absurde, mais ça voulait dire exactement la même chose. Et à la fin, si on remplaçait le mot, ben, je pense qu'on prend le texte à sa juste valeur, parce qu'on l'aborde du côté moins dramatique. Donc c'est ça, c'est-à-dire parler d'un sujet qui peut évoquer, important à mes yeux, et aborder d'une manière originale. Voilà, pour pouvoir en parler, parce qu'il y a des tabous qui prédominent depuis pendant des siècles, et on n'en parle pas et rien n'est réglé. Et donc, c'était, pour moi, c'est des manières de créer des points d'échange, de discussion. Voilà.
Mais alors du coup, qu'est-ce qui vient en premier? Le texte, la musique,
En
comment
général, c'est le
le
texte. C'est
texte?
pour ça que c'est un peu compliqué pour moi, parce que je pars du texte pour composer une musique. Parce que longtemps, j'ai écrit sur la musique, et hélas, lorsqu'on écrit sur la musique, le sujet colle à la musique. Et j'aime beaucoup les paradoxes artistiques, comme par exemple le morceau de Rita Mitsouko qui s'appelle de Marsa Baila, qui est un morceau festif qui fait danser, mais dont le sujet fait part du deuil
C'est la mort.
d'une artiste. Voilà, c'est la mort, c'est le deuil d'une artiste avec qui elle partageait la scène. Donc, lorsqu'on a dansé sur une chanson aussi longtemps et qu'on pense avoir tout retenu, apprendre qu'on a dansé sur un sujet très triste, ben, ça vous déstabilise quelque part et ça vous incite à une réflexion sur le fond, la forme et la manière de le percevoir et d'y réagir. Donc, pour moi, c'est encore une clé. Voilà, proposer quelque chose d'inattendu et de surprendre même sur le tard. J'adore ça. Je veux dire, il y a aussi le fait que j'aime écrire, enfin j'essaie d'écrire à plusieurs degrés de lecture, parce que tout le monde évolue, tout le monde a une réflexion qui évolue avec son âge en général, et le niveau de compréhension aussi. Et donc j'aime arriver, lorsque j'arrive à faire comprendre un texte à un certain âge, à un autre âge, ou à certaines étapes de la vie, où des personnes qui viennent me voir qui me disent: oui, j'ai pas compris ton texte. Et je leur dis: oui, parce que t'as pas encore eu assez de problèmes, par exemple, pour savoir de quoi je parle. Voilà, c'est comme si on parle d'enfants. Forcément, avant d'en avoir, c'est un peu compliqué de comprendre celui qui a choisi ce sujet.
À fait.
Donc, c'est une des méthodes que j'essaie de pratiquer.
Mais alors donc du coup, ça veut dire que parce que la musique n'est pas qu'une illustration du texte quand même. Enfin, elle répond au texte et c'est pas juste on met un fond musical.
Non, pas du tout, pas
Donc
du
du
tout.
coup.
Bah, c'est comme un mariage, il ne faut pas se tromper, hein. Surtout qu'une chanson et sa musique peuvent rarement se séparer une fois qu'ils se sont déclarés en tant que tels, comme chanson.
Le divorce n'est pas simple.
Non, il n'y en a pas. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc, c'est des choses qui me prennent du temps de chercher la bonne musique. Enfin, la musique qui pourrait correspondre au texte. Il m'arrive de me tromper en plus.
Par exemple.
Par exemple, des morceaux où je suis certain de leur portée. Et j'arrive sur scène et en fait, ça fait comme un flop. Les gens ne le captent pas comme je l'ai écrit. Et il y a d'autres morceaux que je fais de manière légère et qui sont compris bien plus que je ne l'attends. Donc c'est une éternelle remise en question sur ce qu'on pense, sur quoi on est sûr d'être et le reste.
Alors ça, ça veut dire aussi que quoi, vous vous faites confiance, vous vous, vous doutez de vous sur, enfin vous pensez plus exactement au, au public en, en écrivant, en se disant est-ce que les gens vont capter, pas capter, vous vous en fichez, vous dites souvent hein, dans les interviews que vous avez pris des claques, vous avez fait des flops, mais n'empêche que vous faites ce que vous voulez quand même.
Je fais ce que je veux, mais je retiens qu'on on a beau faire ce qu'on veut, on le fait pour quelqu'un, parce que il n'y a rien de plus triste que créer quelque chose qui nous a touchés et de ne faire réagir personne. Et c'est quelque chose que les artistes ont du mal à admettre, c'est le fait qu'ils sont au service d'un public, ils sont au service de ceux qui ont la sensibilité de pouvoir être touchés par leur travail. Sinon, ça ne sert à rien de créer. Voilà, donc tous les artistes qui pensent créer pour eux-mêmes se trompent littéralement. Et moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, et pas à mes dépens, parce que j'ai toujours eu la chance d'avoir un public, que ce soit 10, 15 ou 100 personnes, qui justifie ma présence et ma réflexion. Et compte tenu de ça, c'est sûr que lorsqu'aujourd'hui j'écris des chansons, je ne l'imagine que sur scène, ou alors la manière dont elle est écoutée, soit en voyage ou soit dans une voiture. Et c'est sûr que ça change quelque chose dans l'énergie qu'on veut transmettre, ça change quelque chose dans la mise en scène du morceau, parce que forcément il y a un peu de jeu selon la musique, il faut faire vivre le texte, il faut l'accompagner vers l'auditeur. C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas être élitiste, et je répète, ne pas oublier qu'on est au service de.
Alors ça veut dire que donc quand vous vous imaginez la réception, quelle soit, et la représentation, le fait de rendre la chanson vivante, je sais pas
oui,
comment.
Oui, c'est ça,
on
c'est
va
ça,
dire ça.
C'est ça.
C'est aussi visuel chez vous.
Oui, c'est l'imagination. Oui.
Et donc ça veut dire que ça peut modifier le texte, c'est ça?
Ça peut modifier l'interprétation et même le texte, parce que tel synonyme va être plus éloquent sur scène qu'un autre mot. La ponctuation. C'est-à-dire que si je mets la virgule à cet endroit-là, ça va changer le sens du texte. Et donc, oui, ça influe sur la manière d'écrire. Parce que lorsqu'on écrit une chanson, elle est faite pour être déclamée. Et donc, moi, j'essaye de faire l'équilibre entre le texte à déclamer et le texte à lire, et le texte à retenir. C'est pour ça que longtemps, je me suis inspiré de l'impact des proverbes. Et l'impact des proverbes pour leur taille. Et pour leur impact, enfin l'impact des proverbes, pour leur taille et leur efficacité. Voilà.
Alors donc, comment vous faites, vous lisez à voix haute pour voir si ça correspond à votre intention, pour voir s'il faut justement déplacer une virgule ou pas.
C'est d'abord une question rythmique. C'est d'abord une question rythmique, c'est-à-dire que c'est un peu comme les haïkus, comme les alexandrins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on obéit à certaines règles, la rythmique vient tout seul. Et s'il y a une syllabe de trop, ça ne colle pas. Il faut trouver le synonyme à deux syllabes, un peu comme dans les mots croisés.
Voilà. Et donc, forcément, la musique, elle est déjà impactée par ce rythme.
La musique est impactée par ce rythme parce que le texte a déjà une musicalité.
C'est ça.
Voilà, c'est ça, oui. C'est exactement ça.
Mais alors, je repose la question du rapport entre le texte et la musique, puisque effectivement, quand on lit vos textes, encore une fois, peut-être pas tous, et effectivement, si on les écoute, on sent le plus de la musique, sans pouvoir dire quel est ce plus, mais en tout cas, on sent qu'il y a un plus. Mais quand on lit vos textes, par exemple dans Mine de Cristal, on se dit pourquoi il a mis de la musique. Les textes sont déjà magnifiques en eux-mêmes, ont du sens, ont une musicalité, ont des émotions, et presque on pourrait les lire, enfin voilà, pour moi, ils se suffisent à eux-mêmes.
Oui. Moi j'écris pour être lu aussi et être chanté en même temps, comme je disais un peu plus tôt. Et le souci, c'est que lorsqu'on écrit que pour être lu, on prend le risque d'être beaucoup moins écouté que lorsqu'on écrit pour être entendu. Et donc, pour moi, la musique est une espèce de chemin pour emmener au texte. Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que j'ai quelque chose à vous dire de plus ou moins grave, de plus ou moins drôle, d'assez important à mon avis. Mais je ne sais pas si vous allez l'écouter sans musique. Donc, je vous l'emmène emballé. Je vous l'emmène avec des fleurs. Je vous l'emmène avec des étoiles, avec une petite danse, s'il faut, pour que vous écoutiez le texte. Et quelquefois, ça marche.
Heureusement.
Ouais,
même plus d'une fois, rassurez-vous. Du coup, est-ce que c'est pour ça que vous considérez, je crois que vous aviez dit que le rap pour vous était la musique suprême, en ce sens que, elle portait une importance égale aux mots et à la musique, justement?
Bah, le rap est un art qui c'est un art de proximité tout d'abord, un art d'immédiateté et qui est fait pour parler directement, pour haranguer, pour attraper, pour interpeller et parler des sujets, voilà, de n'importe quel sujet, sans aucune barrière, sans aucune frontière. Et c'est peut-être pour ça que c'est une musique dont on parle encore aujourd'hui, car elle ne fait que tenir compte de l'air du temps. Ce qui fait qu'elle parlera toujours à quelqu'un. Ou alors elle touchera toujours quelqu'un. Et c'est pour ça que pour moi, c'est une espèce de musique suprême, parce qu'elle a beau avoir changé de forme, changé d'artiste, elle garde le même nom. Elle a beau se diversifier, s'élargir. Il y a même des artistes ou des chansons, on se demande comment les définir. Et quelquefois, on le classe dans le rap, faute de savoir à quel genre ça appartient vraiment. Et je pense que c'est dû au fait que ben, le rap devient de plus en plus compliqué à définir. Parce que c'est un air du temps, c'est un état d'esprit, comme j'ai toujours dit. Et c'est quelque chose qui est assez difficile à définir. C'est quelque chose qu'on ressent, forcément. Mais à décrire, c'est un peu compliqué. Peut-être parce que ça évolue tout le temps. Et que c'est difficile de le fixer, de le décrire en tant que tel, sachant que dans 6 mois, il sera ailleurs.
Ce que j'ai remarqué souvent en préparant un peu cette rencontre, c'est que pour tous les gens qui font du rap, sur les pages Wikipédia, dans les articles et autres, on ne dit pas, ou pas souvent, moins souvent, chanteur, compositeur, on dit rappeur. Voilà, comme si c'était forcément un tout, un fourre-tout aussi, qui fait que rappeur, on est censé savoir ce que ça veut dire.
Bah, oui, mais bah, disons que bah, c'est très drôle, c'est que même aujourd'hui encore, enfin, disons que je pense que nous sommes un peu victimes du fait que pendant très longtemps, le rap n'a pas été considéré comme une musique, ce qui a créé un clivage qu'on paye aujourd'hui alors que cette musique est devenue universelle et que tout le monde la pratique. Donc pour moi, ça nous met face à un paradoxe. D'acceptation, voilà. C'est-à-dire que pendant longtemps, cette musique a représenté des choses qu'on ne voulait pas voir. Et bien que ça ait changé avec le temps, on continue à garder des restes de cette époque-là. Donc, je pense que c'est une évolution qui doit se faire plus d'un côté que de l'autre. Ouais.
Sans doute. Alors du coup, comment est-ce que, aussi bien dans la musique que dans l'écriture, on intègre d'autres influences musicales? Comment est-ce que, si vous avez un texte qui est rimé de façon rap, on va dire pour faire court, écrit, comment est-ce qu'on arrive à intégrer d'autres musiques qui ne sont pas forcément des musiques purement rap, on va dire,
Bah,
ou des rythmes purement
je
rap?
pense que c'est uniquement technique. C'est-à-dire que le rap est le rap en raison de sa rythmique, de son métrage, en raison de son métrage et du nombre de syllabes à la minute. Et bah, je pense que c'est la musique où il y a le plus de la plus dense. Et ce qui fait que on n'a pas le temps d'installer une mélodie. Et c'est pour ça que c'est saccadé. Et peut-être quelquefois monotone. Et tandis qu'une chanson demande beaucoup moins de paroles. Et quand j'en suis rendu compte, je m'en suis rendu compte, je me suis demandé pourquoi je ne m'étais pas mis à la chanson. Parce que une chanson demande 2 fois moins de texte qu'un rap. Voilà. C'est-à-dire que
Oui, c'est vrai.
sur 1 minute, vous pouvez avoir. Dans une chanson normale, vous pouvez avoir ben, 10 lignes, alors que pour un rap, vous en avez 16.
Plus de couplets
Voilà,
qu'on répète, déjà, c'est
et des
facile.
pré-refrains, donc forcément, ça demande un autre travail.
Alors, comment, pour le coup,
C'est de l'architecture.
y a des choses qui sont de votre fait, donc vous en êtes à l'origine, puis il y a des collaborations, où, enfin, comme justement l'album L'Hippopette Bar, où il me semble qu'on est venu vous chercher.
Oui.
Et là, donc c'est un groupe plutôt jazz, même si effectivement, quand on écoute l'album, il y a une rythmique qui évidemment est très proche du rap, du hip-hop, etc. Donc c'est vraiment pour moi un mix parfait entre les deux. Mais comment est-ce que vous abordez ça en termes d'écriture? Et en termes de musique, comment est-ce que vous vous dites là, faut quand même que je. Voilà, il va y avoir une attente de tous les côtés, sans doute aussi. Et c'est pas forcément votre musique, enfin, on
De
imagine,
prédilection.
de prédilection, enfin,
Non.
d'origine. Donc, comment est-ce qu'on se coule là-dedans, justement, en termes
Bah,
d'écriture?
comme je disais tout à l'heure, on cherche les points communs. on cherche les points communs. Donc là, j'ai une formation rap traditionnelle. J'ai envie de faire un disque différent avec des musiciens. Donc j'essaie de faire le lien entre tout ça. Voilà, ce que je connais du jazz, c'est quelques petites boucles, des échantillons sonores que des groupes de rap américains ont utilisés. Donc on remonte le courant et puis on découvre Miles Davis, on découvre Coltrane, on découvre les bluesman et puis on commence à avoir les accointances. En termes de texte, on se dit qu'on ne va pas aborder les sujets d'aujourd'hui parce que ça ne sera peut-être pas synchro. Donc je pars sur le fantasme d'écrire une histoire, tout un disque. Je suis avec des musiciens, donc on va pouvoir faire du sur-mesure, composer, pouvoir mettre des émotions sur la musique, la faire varier comme sur une musique de film. Et à partir de toutes ces idées, tous ces ingrédients, on rentre en studio et on essaie de rendre ça tout cohérent, de rendre ça cohérent. Voilà, et puis on sort le disque et on croise les doigts.
Alors, est-ce qu'il y a des parfois, alors, pas, que ce soit avec ces musiciens-là ou d'autres en général, puisque c'est vous qui apportez tout ça, est-ce qu'il y a des différends avec les musiciens justement qui lui disent non, ça peut pas coller, ou faut que tu changes de texte, ou voilà, comment ça, les deux aussi se
Ben,
jouent?
c'est des débats. C'est des débats parce que tout le monde pense avoir raison, tout le monde est sûr de son avis et c'est là qu'on apprend le travail en groupe et les compromis nécessaires à l'avancée du projet. Donc quelquefois on cède, on peut le regretter, quelquefois on accepte et on a appris quelque chose. Donc ce ne sont que des compromis avec tout ce que ça comporte en termes de risques et de frustration.
Il y en a eu parfois.
Oui, bien sûr, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Les conflits, les accords, les désaccords. Mais le plus important, c'est que à la fin du projet, on fasse tous la fête.
Oui, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres choses qui entrent en jeu? On imagine que oui, mais quand d'une chanson, vous voulez faire un clip, d'abord, est-ce que vous savez à l'avance en écrivant... Ça, c'est une chanson dont je vais vouloir faire un clip. Est-ce que c'est vous qui le décidez? Est-ce que c'est la maison de disques? Enfin, je ne sais pas comment ça se joue.
Bah, c'est là encore une question de compromis, c'est-à-dire qu'il y a les diffuseurs qui ont leur avis sur la question, il y a l'artiste qui est sûr du morceau qui doit le représenter, il y a l'équipe autour de l'artiste, il y a le label aussi qui a son avis, et donc on se réunit, on débat, on se contredit, et on arrive sur un morceau qui disons, rassemble tout le monde, à peu près, et à partir de ce moment-là, on trouve la personne qui va nous mettre en image. Voilà. C'est jamais l'artiste qui s'en occupe parce que sinon c'est le mur. C'est le mur, il se prend le mur. Donc on appelle des spécialistes de la réalisation, de l'image, qui vont avoir des idées meilleures que vous. Ou alors on en appelle plusieurs et choisir celui qui a la meilleure idée. Et à partir de là, il écrit une promesse sur feuille que lui-même va essayer de. Une promesse à laquelle lui-même, le réalisateur, va essayer de répondre. Parce que c'est de surprise en surprise. Voilà. On choisit un morceau qu'on espère être le plus à même de représenter le projet. Ensuite, on choisit le réalisateur qui nous promet de faire l'image qui correspond à ce qu'il a écrit pour le projet. Et en fait, on croise les doigts jusqu'à la fin du projet. Parce que c'est surprise. Ça ne se passe jamais comme prévu. Voilà. En mieux, en pire, enfin, ça ne se passe jamais comme prévu.
Mais parce que
On a beau faire, poser des stratégies, dépenser de l'argent, ça ne se passe jamais comme prévu.
ce qui est quand même particulier, c'est si on prend par exemple un auteur dont le roman est adapté, on peut dire bah voilà, le réalisateur il a sa lecture, et une fois que le livre est sorti, le réalisateur fait son interprétation, écrit ce qu'il veut, tandis que là, il y a quand même, voilà, en plus vous êtes dans le clip, donc et ça représente votre chanson. Donc une fois qu'elle est fixée sur image, il faut quand même que ça vous convienne, quoi.
Ben oui, en principe, mais c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ben là, quelquefois, par accident, ben on est obligé d'assumer et de voilà, d'assumer, de jouer le jeu, de jouer le jeu. C'est-à-dire, personne ne réalise le travail nécessaire et le nombre de miracles qui servent à passer de l'écrit à l'image avec autant d'exactitude. Personne ne réalise. Mais tout le monde aujourd'hui a les moyens de filmer. Il suffit d'essayer de faire un film d'1 minute, c'est-à-dire 60 secondes, avec deux personnages juste avec un portable, et les gens vont avoir l'idée précise du décalage qu'il peut y avoir entre ce qu'on s'imagine et ce dont on est ce qu'on est capable de faire, vraiment. Et donc, lorsqu'on part dans un projet audiovisuel, c'est comme si on partait, il y a beaucoup de hasard. Beaucoup de hasard. Parce qu'il y a tellement de choses qu'on ne maîtrise pas.
Mais au final, pour vous, ces clips qui sont aussi un emballage supplémentaire,
oui, bien sûr,
pour amener à la musique, est-ce que c'est quelque chose d'indispensable, de satisfaisant, dans la mesure où, tout à l'heure, vous avez dit, moi, mes chansons, elles sont aussi à plusieurs niveaux, et à partir du moment où on va les fixer sur l'image, grosso modo, on va dire qu'il y a une façon de le lire,
ouais,
qui est imposée par l'image aussi, donc ça réduit quelque part le,
oui,
texte et la musique.
Oui, bien sûr, je suis tout à fait d'accord. Bah, c'est le souci est qu'à notre époque, pour être entendu, il faut être aussi vu. Et même si on prend le risque d'être mal vu, c'est une certitude d'avoir été entendu. Parce que la démarche d'aller écouter, juste écouter, sans avoir à regarder, si elle n'est pas conseillée, il y a peu de chances qu'elle ait lieu. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes tellement sollicités en permanence que l'image va toujours avoir le pas sur l'écoute. Et donc, c'est assez compliqué. C'est vrai que c'est une très bonne question. Bah, il faut essayer de ne pas se planter. Il faut essayer de pas se planter. Mais en même temps, il y a tellement de propositions aujourd'hui qu'on peut se demander si c'est vraiment utile de continuer à aller dans ce sens-là. Voilà, c'est parce que malgré tout, dans cette surenchère d'image, est-on à la bonne place ? Voilà.
Ça, c'est la grande question à 1 000 euros.
Vraiment.
Du coup, alors, si on revient à l'écriture... ce qu'on constate aussi en écoutant vos albums, en lisant vos textes, c'est que dans les textes de chansons, je ne suis pas le seul à évidemment le souligner, il y a de plus en plus un minimalisme, une épure, un resserrement, une concentration, dans le sens comme du sirop concentré. Non pas forcément une extinction du sens, un appauvrissement, mais en tout cas une concentration. Mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là depuis les débuts. Et alors, qu'est-ce que ça signifie ? Est-ce que c'est une évolution littéraire, stylistique, comme peut en avoir n'importe quel écrivain ? Enfin, moi, je vous considère comme un écrivain. Ou est-ce que c'est une autre démarche ? Est-ce qu'il y a autre chose derrière ? Pourquoi ce resserrement ?
Bah, je pense que en quelques mots, on peut avoir tout dit, et que ça passe par l'épuration, ça passe par la clarté, la lumière, et que comme dans la musique, le silence est très important pour mettre les notes en avant. Et pour moi, pouvoir dire la même chose avec un nombre de mots moindre est une espèce de tour de magie. Voilà. La plupart des livres que je lis n'ont besoin que d'une page en termes de contenu. Et tout le reste sert à édulcorer, séduire, amener, répéter, donner des exemples. Et donc, moi, je pense que si le propos est épuré, il est plus facile à retenir, quel que soit le stade de compréhension. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut retenir des choses qu'on comprend plus tard, et ça va avec un bagage léger. Je pense que c'est ça.
Ça veut dire que c'est aussi une façon de s'adapter à l'ère du temps, effectivement, il faut que ça aille plus vite. On est peut-être moins nuancé, moins adapté à écouter des textes un peu plus longs.
Disons que c'est une démarche qui correspond à l'ère du temps, mais qui a toujours, toujours eu lieu quand on écoute ce qu'on a retenu de Socrate ou des grands auteurs comme Oscar Wilde, dont on n'a pas tous lu les œuvres. Il y a des petites phrases qui reviennent dans l'inconscient collectif et dont on oublie même l'auteur, mais dont on se rappelle des passages ou des avis. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours prévalu, quoi, l'espace-temps. L'espace-temps d'une information.
Est-ce que c'est aussi, je me suis posé la question, est-ce que c'était aussi en même temps une façon de résister à l'ère du temps, c'est-à-dire justement de rendre la parole qui aujourd'hui est l'écriture qui est démultipliée, que ce soit numérique, mail, SMS et tout ce qu'on veut, les gens qui interviennent partout sur les réseaux sociaux pour dire tout et n'importe quoi, on en fait partie, hein, je ne m'excuse pas, mais je me suis dit, est-ce que c'est aussi donc, cette façon de concentrer les choses, à la fois de dire on réduit parce qu'il faut que les choses soient plus impactantes, pour employer un terme un peu moche, et à la fois rendre la parole plus précieuse face à tout ce flot.
Bah, pour moi, merci, c'est rendre la parole plus précieuse compte tenu du fait que je suis certain que le bon mot fait toujours son chemin. C'est-à-dire que y a les avantages et les désavantages de notre époque, c'est trop de mots, mais néanmoins, tout un chacun, ils sont pris en considération. Et les mots qui touchent vraiment, qui sont vraiment utiles à l'essentiel, voyagent et connaissent le bouche à oreille parce qu'ils sont retenus et qu'ils connaissent un certain impact. Et donc, je suis persuadé que le beau finit toujours par faire son chemin dans la nuit, toujours. C'est une question de temps. Et c'est vrai que c'est une notion qui est assez difficile à assimiler aujourd'hui, le temps qu'il faut pour certaines choses. Et il faudra toujours du temps pour les bonnes choses.
Et ça, le temps, c'est quelque chose qui revient souvent aussi dans
oui,
vos textes, dans
oui,
votre...
Oui, oui, oui. C'est une obsession. Important. C'est peut-être personnel, mais c'est une obsession. En même temps, c'est une obsession qui se généralise. Voilà. On est vieux plus jeune aujourd'hui. on est vieux plus jeune. Les jeunes sont précoces. Enfin, il y a un bouleversement de l'espace-temps de toute façon qui justifie mon obsession. Oui.
Est-ce qu'il y a des moments précis? Quand est-ce que vous écrivez? Est-ce que vous saisissez des bribes par-ci par-là et tout peut devenir une chanson, un texte ou...
Ça devient quelquefois le matin quand on a l'esprit clair, qu'on n'a pas été pollué par quelques appels ou quelques impératifs. Et il faut être aux aguets. Donc c'est un mélange. D'état de réception et de vigilance. Et je pense que, pour ma part en tout cas, j'écris beaucoup mieux. Je récolte dans mon quotidien et je vais semer dans mes voyages. Voilà. C'est-à-dire que c'est lorsque je sors de mon cadre que je prends assez de recul pour pouvoir faire quelque chose de cette matière, l'esprit tranquille, parce que j'habite dans un endroit où on est constamment sollicité à un tel point qu'on oublie de réfléchir en pensant que nous sommes en train de réfléchir. Donc c'est un leurre permanent qui, pour moi, coupe la créativité. Voilà, parce que lorsqu'on est tout le temps dans l'action, forcément, on ne peut pas s'arrêter pour créer. Et cette alternance dont j'ai besoin de voyager, de vivre, de voyager, c'est de cette manière que j'arrive à alterner pour me nourrir et créer en même temps. Parce que ça m'est impossible de me nourrir et de créer en même temps.
Et je crois que vous avez des petits carnets que vous baladez tout le temps, sur lesquels vous notez tout, justement, qui peut être...
Bien sûr, on n'a pas assez de mémoire pour se rappeler de tout ce qu'on vit de bien, ou de tout ce qu'il faut retenir. Et lorsque je relis mes carnets et que je découvre des choses que je suis étonné d'avoir écrit moi-même, je me dis que je veux pas rater quoi que ce soit, donc j'ai toujours quelque chose pour noter.
Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous revenez, justement, des textes que vous auriez écrits ou des notes que vous auriez prises, que vous avez laissées, puis finalement, je ne sais pas pour quelle occasion, mais vous les relisez, puis vous dites « Ah tiens, ça, je pourrais le reprendre ou... »
C'est drôle parce que je pense que quelquefois, on tourne beaucoup autour de certains sujets, mais le noyau, le centre reste le même. Donc, quelquefois, je pense avoir une nouvelle idée et c'était une idée que j'avais écrite dans un carnet un peu quelques mois ou quelques années plus tôt et ça m'amuse. De penser avoir oublié une idée qui revient et qu'elle soit nouvelle, s'il y a quelque chose d'amusant dans le
temps. Ça peut peut-être vouloir dire que c'est justement une bonne idée si elle revient.
Oui, bien sûr. En général, lorsqu'on note quelque chose, pour moi, c'est que ça mérite d'être retenu. Et forcément, il y a du bon dedans. Il y a du bon à prendre, toujours. C'est pour ça qu'il faut noter.
Alors, en termes d'écriture, donc il y a encore une autre facette de votre écriture, c'est donc ce roman, qui est un texte évidemment plus long que les chansons habituelles, qui s'appelle donc Les réveilleurs de soleil, qui est un roman, je ne sais pas si le mot roman d'ailleurs est tout à fait exact, qui se situe du côté de la fable, du côté du conte, un livre qui aurait tout à fait sa place à côté de Mathias Malzieu, de Lewis Carroll ou de Boris Vian, par exemple. En tout cas, moi, il y a des passages qui m'y ont beaucoup fait penser. Donc, tout le monde ne l'a peut-être pas lu, je vous le résume très rapidement. C'est l'histoire de Rosie, hein, qui a 13 ans. Donc, à 13 ans, on est plus tout à fait une enfant, mais on l'est encore un petit peu quand même. On n'est pas une adulte, évidemment. Ça a une importance, évidemment, pour parce que l'enfance, c'est quelque chose aussi qui vous touche beaucoup. Et ça a une importance pour le récit. Et donc, Rosie vit dans un monde qui est proche du nôtre, mais pas tout à fait. Et il y a une particularité, c'est que le soleil fait des apparitions de plus en plus aléatoires. Et il finit même par décider de ne plus apparaître, ce qui évidemment pose un certain nombre de problèmes aux habitants du monde de Rosie qui sont comme nous, qui ont besoin du soleil. Et ça en pose un en particulier, c'est que Rosie vit avec son grand-père qui est malade et il se soigne avec des plantes. Et donc plus de soleil, plus de photosynthèse, plus de plantes. Et évidemment, Rosie, ça l'inquiète fortement, cette disparition du soleil. Et donc elle va se mettre en quête, hein, on est vraiment dans la quête initiatique, le conte, elle va se mettre en quête pour essayer au départ de trouver une personne, des personnes qui voudront bien, qui seraient capables peut-être de faire revenir le soleil, en tout cas qui voudront bien l'aider à essayer de le faire revenir. Et donc elle va rencontrer des personnages variés, aussi bien des personnages tout à fait symboliques et fantasmatiques. Elle rencontre le crépuscule, qu'elle appelle Crêpe, qui est plutôt bougon, qui est plutôt l'enfant seul, lui, et qui va finalement finir par avoir une histoire d'amitié et un peu plus, mais avec quelqu'un d'autre, avec Rosie. Elle va rencontrer Aube. Moi, j'ai beaucoup pensé aux sorcières blanches qu'on voit dans les contes, dans Le Seigneur des Anneaux, etc. Puis d'autres personnages dont on dira deux mots, qui sont plus proches de notre monde à nous. Donc, ma première question, c'est comment est-ce que vous êtes passé au roman? Comment est-ce que vous êtes passé des textes plus courts à un texte plus long? Qu'est-ce qui vous a donné cette envie d'écrire un roman?
Ben, ce qui m'a donné envie d'écrire un roman, pratiquement c'est le temps. C'est le temps. Parce que je suis soit en studio, soit en tournée, dans un tourbus. Et ben, entre les deux, j'essaie d'écrire des chansons. Et au-delà de ça, pendant longtemps, conjointement à la musique, j'ai écrit un scénario qui m'a pris beaucoup de temps et qui m'a appris à écrire les scénarios en général. Et donc l'art de la narration. À côté de ça, je suis passionné de lecture de toutes sortes. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un concept de nouvelle que j'avais mis de côté dans un carnet, qui remettait en question des ordres logiques de la nature et leur donnait une explication qui m'appartenait. Et donc dans l'une d'entre elles, il y avait cette histoire de soleil qui disparaissait. Et le confinement est arrivé et je me suis retrouvé avec quelques semaines devant moi et cette structure de soleil qui disparaissait avec une petite fille qui cherchait une solution. Non, d'abord, c'était le grand-père qui cherchait une solution. Et j'ai étoffé l'histoire pour me retrouver avec quelque chose qui ressemblait à un parcours que tout le monde pouvait emprunter pour régler un problème. Qu'on pense personnel, mais qui en fait concerne beaucoup plus de gens. Voilà.
Est-ce que cette forme du conte, c'est aussi une façon de faire ou dans la continuité de ce que vous dites parfois de l'écriture, vous parlez du pouvoir magique des mots, on est tout
bien
à
sûr.
Fait dans cette magie-là aussi.
Ah oui, totalement, c'est-à-dire que j'aurais pu en faire une chanson, j'aurais pu faire une comédie musicale, j'aurais pu essayer d'en faire un scénario de film d'animation, mais je pense que le plus accessible et le plus concret, c'était d'en faire un livre. Et c'est ce qui est magique, c'est que vous pouvez prendre le même propos et le décliner de centaines de manières différentes, juste en changeant l'ordre des mots, la ponctuation, en réduisant, en augmentant, en rendant le vocabulaire, le lexical, le champ lexical plus technique. C'est vraiment une histoire de présentation. Voilà, c'est une histoire de présentation. C'est-à-dire qu'avec du pain, du beurre et d'étrange de quelque chose, vous faites un sandwich, vous faites une entrée, enfin c'est voilà, vous
Avec
faites
des
des
aubergines et du parmesan.
voilà, il y a de quoi faire avec les mêmes ingrédients, c'est une question de composition. Aubergine,
Alors,
parmesan.
qu'est-ce qui est plus, est-ce que c'est plus compliqué pour vous? Est-ce que ça a été plus difficile ou pas du tout pour vous d'écrire un roman? Parce que c'est pas le même format. On imagine qu'il y a des peut-être des difficultés d'écriture auxquelles vous vous attendiez pas, je sais pas.
C'est le temps et la disponibilité que ça demande. C'est-à-dire que lorsque vous écrivez un roman, un livre, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et tant que vous ne l'avez pas fini, c'est quelque chose qui peut vous empêcher de dormir. Parce que bah, y a des moments de doute que vous traversez. Et ces moments de doute sur un livre, c'est extrêmement prenant. C'est extrêmement prenant parce que à partir du moment où on décide d'écrire un livre, bah, on rentre dans une autre cour. Voilà. Et c'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien de changer de catégorie, d'être présenté autrement. Bah, ça change une vie, écrire un livre.
Alors, c'était une question que je voulais poser. Est-ce que écrire un roman, c'est réussir sa life? En ce sens que c'était peut-être un objectif pour vous, je ne sais pas. Est-ce que c'est, est-ce, comment est-ce que vous le situez dans votre ensemble artistique? Est-ce que c'est un petit plus? Est-ce que c'est une extension finalement logique de l'écriture? Est-ce que c'est comme on dit, il faut planter un arbre, écrire un livre, faire
Ben,
un
pour moi,
enfant?
c'est une extension, c'est une suite logique. Mais c'est vrai que lorsqu'on a écrit un livre, on devient écrivain. Et que c'est vraiment à des années-lumière de musicien ou de chanteur ou même de rappeur. Voilà. Donc, ça symbolise quelque chose d'important. Même si pour moi, comme je disais, c'est juste une question de disposition et de longueur de propos. Forcément à l'image, ça change quelque chose.
Dans la réception
Ça change
qu'ont
quelque
les
chose,
autres,
oui.
ouais.
Oui,
Ça
oui.
vous classe dans une autre catégorie.
Oui, malgré moi.
On ne va pas tout dévoiler de ce roman, mais il y a des personnages qui font que, voilà, il y a une ambiance quand même qui rappelle évidemment d'autres textes que vous avez écrits, d'autres chansons.
Bien
On
sûr.
est souvent à la fois dans un côté magique et dans le côté du conte, dans le côté de la fable, dans la poésie. Et on est aussi dans le côté réaliste. Il y a trois personnages dont je n'ai pas parlé, mais il y a un personnage, il y a le personnage de Vénus, qui est la plus belle des femmes, donc on espère qu'elle va aller séduire le soleil. Alors d'abord, en tout premier lieu, il y a Noé, qui est l'homme le plus riche de la Terre. Alors c'est pas Elon Musk, mais en tout cas, il a lui inventé un mini-soleil. C'est le seul à en avoir et il espère bien en vendre à tous ceux qui ont suffisamment d'argent pour pouvoir en acheter. Donc on espère qu'il va pouvoir acheter le soleil, on espère que Vénus va pouvoir le séduire. Et puis il y a un autre personnage qui est assez intéressant aussi, qui s'appelle Famous, hein, si on le
C'est ça,
prononce un
c'est
peu à
ça,
l'anglaise,
c'est ça.
à l'américaine. Et lui, il a une particularité, c'est que bah, il est célèbre, mais il n'est pas célèbre n'importe comment, il est célèbre parce qu'il a les mots et il a la parole.
Il a les mots, il a la parole. C'est drôle parce qu'il a les mots, il a la parole, et il a plus la forme que le fond. Et donc, c'est un peu à l'image de certains nouveaux guides d'aujourd'hui, qu'on appelle influenceurs, qui prennent l'attention, qui ont quelque chose de fascinant, mais qu'on ne va pas toujours comprendre ou même déceler. Et je pense que c'est un des traits de notre société d'aujourd'hui. Et c'est fascinant et c'est quelque chose qu'on a à comprendre. Et donc, j'ai pensé aux personnages qui, selon le commun des mortels, peuvent sauver le monde. On entend souvent, ah oui, lui avec sa fortune, il pourrait régler la fin dans le monde, mais c'est pas aussi simple que ça. Et donc, c'est ce que j'ai essayé de faire comprendre avec Rosie qui pense que c'est l'argent, la fortune qui va régler le problème, la beauté ou alors la célébrité. Et qui va se rendre compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on demande, on demande une définition de la réussite, ça passe par l'un des trois prismes, la fortune, la célébrité, la beauté. Alors que ça reste quelque chose d'abstrait et qui va chercher beaucoup plus loin que ça.
Alors ce personnage, moi, il m'a beaucoup intéressé. Il m'a fait penser toute proportion gardée, c'est un parallèle, c'est pas tout à fait la même chose, mais au personnage de Jean Solpartre, de Boris Vian, où, parce que donc, dans votre livre, il y a les pour, il y a les contre, les languistes, et puis les anti, les antifameuses, donc c'est vraiment des sectes, et ils se battent, c'est vraiment acharné, et je pensais à l'écume des jours, et je me disais, ah ouais, ça rappelle les conférences de Jean Solpartre, et ceux qui viennent, les pour et les contre, qui se battent comme des chiens pour écouter ou descendre le personnage, on était un peu dans cette idée-là. Il y a aussi plein de clins d'œil, hein, dans votre roman. Il y a même un clin d'œil au parrain, j'ai vu. Une proposition qu'il ne pourra pas refuser. Donc, il y a plein de choses. Et puis, on peut le voir aussi comme, en partie, ça ne réduit pas le propos, mais en partie, une fable écologique.
Ah oui, aussi, bien sûr.
Et ça le place aussi, ça place aussi ce conte tout à fait, là aussi, dans la contemporanéité, mm-hmm. dans l'air du temps, dans l'actualité, en fait.
Bah oui, disons que pour moi, c'est un drame que on puisse donner un nom à la coupure de l'humain avec la nature. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un point de rupture tel, avec des conséquences peut-être désastreuses sur le climat, qu'on a donné un nom à ça qui s'appelle l'écologie. Et c'est un peu le même drame que ce qu'on peut manger, qui est devenu tellement pollué, qui est sous pesticides et compagnie, que lorsque c'est exclu de tout ça, on appelle ça du bio. Alors qu'à l'origine, c'était ce qu'on mangeait jusqu'à la transformation. Alors je pense que c'est une espèce de rappel au fait que ce qui est normal, c'est la nature. Et que si nous sommes dans une situation anormale, c'est parce que nous nous retrouvons dans un contexte extraordinaire. Voilà, et que ce n'est pas l'inverse, quoi.
Ce roman vient après, enfin longtemps après, enfin 2 ans après, mais votre dernier album qui s'appelle La nuit du sommeil, et là ça s'appelle Les réveilleurs de soleil. Donc est-ce que entre la nuit, le jour, le côté réveil, est-ce que il fallait voir une suite pas forcément consciente, mais est-ce que il y a quand même des choses de cet ordre-là dans la mesure, enfin. Oui, déjà, répondez. Est-ce qu'il y a quelque chose de cet ordre-là?
C'est marrant parce que je n'avais jamais fait de rapport entre les deux, entre la nuit du réveil et le réveil du soleil. Je n'avais jamais fait de rapport entre les deux. Mais disons que maintenant que j'y réfléchis, c'est une espèce de métaphore de ces moments qu'on doit tous traverser pour arriver à quelque chose de meilleur pour nous. Voilà. C'est-à-dire qu'hélas, tant on ne peut pas apprécier le bien à sa juste valeur tant qu'on n'a pas connu son contraire. Et c'est une règle universelle par laquelle il faudra toujours passer pour pouvoir apprécier, pour vivre juste, pour vivre. Voilà, que vous ne pouvez pas apprécier quelque chose de bien sans avoir connu son contraire. Et la nuit du réveil, qui pour moi est une espèce de représentation du tunnel qu'il faut traverser pour espérer un jour voir une petite lumière qui va prendre de la place, qui va devenir notre vie. Et les réveilleurs de soleil, ce qu'il faut mettre de soi, quelquefois, pour retrouver la lumière. Donc, c'est un peu. Il y a un très, très gros rapport entre les deux. Merci de me le noter. Oui.
Moi, j'ai trouvé ça surprenant parce qu'en écoutant même une interview sur le 7e album, il y avait 2 choses, justement, qui relevaient de ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, dans une chanson, dans la première chanson de l'album, qui s'appelle Le droit de chanter, où vous dites que c'est aussi. Donc, c'est, on va dire. Comment le rap a conquis droit de chanter, comment vous et votre génération avez conquis le droit de chanter, et du coup vous évoquez aussi ce que vous avez perdu, mm-hmm. et combien il nous manque à partir du moment où on réalise qu'on les a perdus, ouais. et comme le soleil. Ouais. Et il y avait une autre chose que vous dites aussi dans cette interview, et je me suis dit, mais en fait il avait vraiment envie d'écrire un livre, vous dites cette première chanson qui ouvre l'album, vous discutez avec Marie Richeux sur France Culture, et elle dit, voilà, il faut cette première chanson pour rentrer dans l'album. Et vous lui dites, c'est comme un livre dont il faut ouvrir la première page.
Ah, c'est vrai, c'est très beau, merci de me le rappeler. J'ai un très bon souvenir de cette entrevue, parce que c'était une discussion qui échappait à tous les codes de la promotion d'un projet. Et donc j'ai fait face à quelqu'un qui avait vraiment écouté mon disque, comme je l'ai écrit. Voilà, c'est un disque que j'ai écrit en 3 ans, donc ça m'a demandé beaucoup de temps. Ça a été des choix parmi d'autres morceaux, Donc il n'y avait aucun mot qui n'était là par hasard. Et c'est vrai qu'il faut un certain temps pour pouvoir capter la substance de ce que j'ai voulu exprimer à travers sa forme aussi. Et lorsque j'ai discuté avec Marie ce jour-là, je parlais avec quelqu'un qui était avec qui j'étais en phase totale.
Ça sent.
Ça m'a touché. Ça m'a
Mais ce
touché.
que je voulais dire, c'est aussi, est-ce que du coup, puisqu'on est dans le côté transversal des arts et des choses, est-ce que ça veut dire que, de façon consciente ou pas, vous pouvez organiser, concevoir vos albums comme justement un livre?
C'est inconscient, mais c'est vrai que je tiens à cette forme de proposition musicale parce que un album traditionnellement appartient à une thématique, une espèce de cohérence musicale dans le propos, dans le discours et dans la direction générale. Un album était conçu de cette manière à l'époque et aujourd'hui, pour des raisons commerciales, on essaie d'assembler des morceaux qui marchent. Quitte à perdre de la cohérence et du fond. Et donc, forcément, lorsqu'on a une vision d'ensemble de plusieurs œuvres séparées qui doivent en fait être des chapitres, c'est vrai qu'il y a quelque chose de littéraire dans la proposition musicale. C'est vrai. C'est vrai.
Et alors, pour en terminer avec ce livre, vous en avez fait aussi une version audio
Oui.
que vous avez lu vous-même.
Oui.
Donc, on imagine que ça implique encore peut-être, je ne sais pas, ce que vous, une autre forme, enfin, c'est pas une autre forme d'écriture, mais voilà, il faut donner du rythme, il faut donner du
Ben, c'est
ton.
drôle parce que quelque chose que j'ai pratiqué avec mon éditeur, ça c'est un secret de fabrication, c'est que à la fin de l'écriture du livre, nous avons lu tout le livre à haute voix. Et le lire à haute voix, c'est lui donner vie. Et quand il y a quelque chose qui ne passe pas, ça saute aux yeux tout de suite. Et ça ne peut être révélé qu'à la lecture à haute voix. C'est cette manière-là qu'on est certain de la fluidité du livre. Parce que c'est ça, c'est-à-dire que ce qui bute à la diction est quelque chose qui butera à la lecture. Et donc ça, forcément, ça ne va pas profiter au livre.
Donc ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure sur
La
la
rythmique, oui,
rythmique,
tout
les
à fait,
chansons,
tout à fait.
et si ça colle pas,
Tout à
etc.
fait, tout à fait.
Et du coup, vous l'avez quand même mis en musique, puisque demain, vous allez nous en faire une lecture musicale.
Oui, c'est vrai. C'est une lecture musicale parce que bah, il y a cette mise en scène théâtrale. Il y a le musicien qui m'accompagne, qui met certaines atmosphères, et puis il y a ces chansons qui viennent découper la lecture pour donner un peu de respiration.
Alors encore une ou deux questions, et puis après je pense que dans la salle il y a aussi sans doute des questions sur d'autres formes d'écriture. Donc j'ai dit que vous étiez réalisateur. Effectivement, vous avez réalisé, je crois, deux courts-métrages. Un, deux. Il y en a un que j'ai vu qui s'appelle L'Anti-30
Oui,
pour
Anti-30, c'est ma
Canal+,
fierté.
qui est assez marrant. On est dans un monde un peu une uchronie où voilà, après 30 ans, il faut être adulte. Enfin, c'est à la fois une uchronie très réaliste, hein, pas d'adolescent après 30 ans. Donc, si vous n'êtes pas adulte, c'est un personnage qui veut s'échapper pour pas fêter ses 30 ans. On le voit, il part, il emmène toutes ses affaires avant de partir, y compris il prend son herbe, tout ça. Voilà, faut rester un ado, un grand ado. C'est aussi c'est presque un polar, aussi un petit polar, un peu
Oui,
quelque
c'est
part.
vrai, c'est vrai. Ça y ressemble, on a essayé d'attraper ces codes-là aussi, oui.
Et puis il y a aussi cette pub assez surprenante, donc avec Omar Sy,
Oui.
qui s'appelle, je crois qu'elle a un titre, hein, elle s'appelle Le
Le
Beau
beau au bois
au
dormant,
bois dormant,
oui.
qui est à la fois un mélange entre La Belle au bois dormant et version masculine
Oui, et Blanche-Neige.
et Blanche-Neige
Oui.
et Cendrillon.
Oui, c'est ça, c'est
Et Cendrillon,
Cendrillon.
puisque donc on
Cendrillon, la
a,
belle au bois dormant, et
si vous ne l'avez pas vu, c'est pour une marque de chaussures dont je ne citerai pas le nom.
Non.
Et donc il est allongé, il dort, et puis il y a une jolie jeune femme qui essaye de le réveiller. Elle lui fait des baisers tendres, durs.
Elle
Il
essaye
se
tout.
réveille pas, elle le secoue, il veut pas. Et quand elle réalise qu'il faut lui mettre une paire de chaussures de la marque adéquate, c'est là où tout se va. Donc ma question, c'est est-ce que c'est encore un type d'écriture différent? Parce qu'il y a aussi du visuel là, immédiatement en jeu. C'est quelque chose que vous avez aimé faire, qui vous a posé problème, je ne sais pas.
Ben, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question parce que je viens de me rappeler le début de l'histoire. Et ça devait être purement Cendrillon, donc avec les prétendantes, enfin les prétendants qui espèrent avoir la bonne chaussure. Et ce que j'ai appris en image, c'est que chaque page se chiffre. Et donc, si vous avez une idée qui nécessite 15 personnes, concrètement, il faut payer les 15 personnes. Donc, il faut écrire quelque chose qui tient dans le budget. Voilà. Qui tient dans la magie et qui tient dans le budget. Et donc, c'est drôle parce que il faut rester aussi fort avec beaucoup moins de textes, mais avec autant d'images. Et c'est une autre gymnastique. Non, cette idée coûte trop cher. Cette phrase-là, bah, écoute, ça va nous coûter 100 000 euros. Donc, il faut réduire, il faut remplacer la voiture par un skateboard, il faut remplacer le ciel par un plafond bleu. Enfin, c'est que des choses comme ça. Et donc, bah, c'est, comme je disais tout à l'heure, l'écrit, le but de la réalisation, c'est de tenir la promesse de l'écrit. Et sur ce projet, je suis content d'avoir été assez bien accompagné pour pouvoir y arriver.
Et sur Anti-30, c'est pour ça que les décors, finalement, enfin, c'est les décors de, ça pourrait être tourné n'importe où, en fait.
Oui, c'est pour ça. C'est pour ça. C'est parce que si on voulait faire ça en studio ou dans un décor plus futuriste, ça nous aurait coûté beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. C'est comme les films d'époque, je veux dire. Il faut louer les costumes, il faut louer les chevaux. Ça change tout. Ça change tout.
Mais au final, ça a presque plus de force parce que c'est moi, un propos qui nous touche d'autant qu'on a l'impression que ça se passe en ce moment ou que ça pourrait se passer demain. En fait.
Bah, j'essaye toujours de parler d'une époque imaginée avec la langue et la lumière d'aujourd'hui parce que c'est ça la chose, c'est que bah, on essaie de se parler, on essaie d'échanger, on essaie de discuter et que cette démarche fait partie de cette envie-là, d'une manière ou d'une autre. On en est tous là. Vouloir être compris.
Alors, ma dernière question, c'est est-ce que dans toutes ces multiplicités d'angles, la chose qui vous réunit, c'est l'envie de raconter des histoires. Là, je voudrais dire deux mots donc de ces podcasts, Histoire de quartier, vraiment écoutez-les. L'idée, c'est que Oxmo Puccino va voir un certain nombre de personnes, certaines connues, certaines beaucoup moins, des gens, je pense que vous avez côtoyé, et qui vont raconter une ou des histoires, des anecdotes. Alors, il y a des embrouilles souvent, des arnaques, évidemment, de choses qui leur sont arrivées, qu'ils ont vécues dans différents coins de banlieue. Et tout ça fait à la fois une histoire sociologique, en ce sens que c'est aussi une histoire des banlieues, comme on ne l'a jamais vu ni écouté. Mais j'ai pensé, alors je ne sais pas si vous allez me fusiller ou quoi, je me suis dit, mais finalement, c'est un peu comme Pierre Bont qui va dans les villages, qui allait dans les villages pour que les gens racontent. Voilà. Et là, c'est une façon de dire, je ne vous compare pas à Pierre Bont, hein, ce n'est pas ça que je veux dire, mais c'est une façon de dire, on peut mettre cette histoire à côté, et il faut mettre cette histoire à côté, parce que c'est aussi l'histoire de la France, de notre société.
C'est exactement ça. C'est exactement ça, je parcours pour révéler l'extraordinaire qui se trouve partout et chez tout le monde, parce que tout le monde a une histoire incroyable. Et c'est juste savoir la raconter et trouver quelqu'un que ça intéresse. Voilà. Et c'est ça, c'est que j'entends toujours des histoires qui méritent d'être mises en image, qui méritent d'être romancées, et on passe à autre chose. Et donc moi, j'ai toujours pensé à mettre ces histoires incroyables dans des boîtes et les partager et rappeler à tout le monde que tout le monde qu'il est incroyable, vraiment. C'est-à-dire, il m'est arrivé tellement de fois de vivre, d'écouter des histoires que j'aurais rêvé mettre en scène ou du narrateur qui pour moi valait tous les animateurs télé qu'on connaît et d'être le seul témoin à vivre ça. Et donc un projet comme Histoire de quartier, c'est partager un peu de ces moments où je suis le seul spectateur. Et c'est aussi mettre en valeur le tout un chacun, vraiment. C'est-à-dire que les gens sont, pour moi, beaucoup, les gens sont incroyables. Il suffit de s'asseoir et de regarder la vie passer et vous assister à des choses incroyables.
Et la façon dont ils le racontent, chacun, c'est voilà, souvent à mourir.
Ça leur appartient.
Et pourtant, les choses qui sont racontées ne sont pas toujours très, très, très tendres, on va dire. Mais voilà, ça me semblait bien correspondre, en fait, à quelque part, enfin, je ne sais pas si on peut dire résumé, je ne vais pas vous réduire non plus, mais à ce que vous faites d'une façon générale,
c'est raconter
des histoires tout en disant des choses,
la narration. Voilà,
cet emballage, ouais. Mais avec du fond derrière.
Toujours. Ça me tourne court de ça sur toutes les formes. Mais c'est ça, c'est raconter notre histoire, partager notre histoire.
Est-ce que vous avez des questions à poser à Oxmo Puccino? Oui, plein, ça y est, j'en vois déjà. Alors, on va essayer de distribuer la parole, on va vous donner un micro pour qu'on puisse vous entendre. On va essayer de vous laisser le temps de tous parler, mais...
Est-ce que je... Okay. Vous m'entendez ? Ah, ok.
Bonjour.
Bonjour. Aimez-vous ce que vous avez écrit comme livre ? Parce qu'il y a certains auteurs, ils n'aiment pas forcément ce qu'ils ont écrit.
Mais c'est parce qu'ils sont fous.
Sûrement.
Bah oui, c'est comme présenter un plat qu'on est sûr d'avoir raté et de le mettre sur la table et de demander aux gens de manger, de leur demander leur avis. Non, je veux dire, à partir du moment où je le présente, c'est que j'estime qu'il est digne d'être partagé. Je pense que le doute n'a pas sa place là. Voilà. Et que les artistes qui se posent ces questions ont des problèmes d'égocentrisme. Ouais, vraiment, vraiment. C'est-à-dire que lorsque j'écris ou que je fais quelque chose, c'est vraiment dans l'espoir que ça plaise. Sinon, je le garde pour moi, vraiment. Donc oui, je suis un minimum satisfait de ce que je présente pour pouvoir le défendre. Sinon, c'est compliqué. Ah non, j'aime pas mon livre que je vous vends. Il y a quelque chose comme une arnaque. Voilà. J'aime pas ce gâteau, je l'ai raté, il y a trop de sel, mais je vous le vends quand même. Non, non, non. Merci de la question.
De rien.
Ensuite.
Salutations. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous aviez peur, étant donné que vous êtes un rappeur, que les personnes n'achètent pas votre livre parce que vous avez écrit un livre, mais parce qu'ils aiment votre musique?
Si j'avais peur qu'on ne lise pas mon livre parce que je suis un rappeur, bah, je sais pas, c'est quelque chose à...
Je crois que la question, c'est effectivement que les gens achètent le livre parce que vous êtes connu comme chanteur sans l'apprécier comme objet.
C'est quelque chose à laquelle je suis habitué, c'est une peur à laquelle je suis habitué. L'incompréhension, la justification, en tant que rappeur, je suis habitué à ça. Et comme je disais tout à l'heure, je compte sur le temps pour que l'idée fasse son chemin, même si j'ai à la défendre sur le coup et que ça m'amuse quelquefois. Je fais confiance au temps. Oui. Et puis je me dis que forcément tous ceux qui comprennent rien vont finir par disparaître.
Seules les œuvres resteront. On a aussi une question.
Non, moi aussi j'ai une question.
Pardon, vous êtes où ?
Ah, je suis là.
Ah voilà.
Oui.
En fait, moi j'ai une question aussi.
Bien sûr.
Quels sont les auteurs et les artistes qui vous ont le plus inspiré ?
C'est une très bonne question, merci. Ben, en venant ici tout à l'heure, je réfléchissais aux auteurs qui m'ont marqué et je pensais à des personnes comme Oscar Wilde, Karl Kraus, Alexandre le Grand, je pensais aussi à toujours Chester Himes. Chester Himes, Iceberg Slim, voilà. Je me réclame de ces auteurs-là.
Merci.
Frontal.
Du coup, moi aussi, j'avais une question. Seriez-vous prêt à faire une adaptation du livre en format d'animation ?
Comment ?
Adaptation du livre
en format d'animation. C'est ça, la chose, c'est que j'ai écrit ce livre pour qu'il soit libre de réinterprétation. Que ce soit en film d'animation, en bande dessinée, en livre pour enfants. C'est la matière que je propose pour faire ça. C'est une espèce de pâte à modeler. Oui, merci.
Ici aussi, il y a une princesse
c'est bon
qui veut poser un mot.
J'avais une question.
Oui.
Quel conseil donneriez-vous pour les jeunes comme nous, en sachant que vous êtes sortis de la rue ?
Oui.
Et vous avez écrit un livre au jour d'aujourd'hui.
Oui.
Quel conseil donneriez-vous aux jeunes ?
C'est de réunir les outils et de bien les utiliser. C'est-à-dire, c'est pas très compliqué de trouver des livres qui nous intéressent et qui peuvent nous faire avancer, de les partager, d'en parler, d'en discuter. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que la démarche personnelle et la lecture pour favoriser les rencontres qui vont vous former et qui vont vous faire devenir vous-même, parce que tout ça, ce ne sont que des rencontres. Un livre est une rencontre. Venir ici, c'est une rencontre. Et je pense que c'est ça qu'il faut favoriser. Et la notion de travail. Voilà, la notion de travail et la patience. Parce que... Ah mince, qu'est-ce que je voulais dire ? La notion de travail et la patience, ça me reviendra. Ça me reviendra. Mais merci de la question.
ici, là, à ma gauche. Le micro arrive.
Bonjour.
Bonjour.
Je me reconnais beaucoup dans votre démarche. J'ai beaucoup écrit, bon, dans le secret de ma chambre, hein, on s'en fout, mais des poèmes. J'ai chanté pendant de nombreuses années. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais un rapport très particulier à la parole, donc fixé ou pas, hein, donc la voix, la parole. Et je me suis posé la question à savoir d'où ça me venait. Je ne veux pas verser dans le biographisme et les théories de Sainte-Beuve, mais vous avez parlé tout à l'heure de votre prof de français. Moi aussi, j'ai eu la chance d'avoir des profs de français extraordinaires. Mais je me suis rendu compte que je vous passe le refrain de « oui, il n'y avait pas beaucoup de livres chez moi », tout ça. Par contre, j'avais une grand-mère paternelle qui me racontait beaucoup d'histoires. Et donc, je voulais savoir si quand vous étiez petit, vous aviez comme ça autour de vous une figure qui vous racontait des histoires, qui était d'une certaine manière le ou la dépositaire d'une mémoire, des histoires des autres. Et en plus, ça m'a fait penser au travail que vous faites maintenant avec le podcast. Et je voulais vous poser la question.
Moi, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est ma mère, et c'est ma mère, et après les livres que j'ai lus, c'est ma mère qui me racontait qui me traduisait les chansons traditionnelles du Mali, qui me racontait les histoires des familles aussi, les légendes, et tout ça forcément a forgé un imaginaire assez fort et précoce. Et c'est pour ça que je conseille à tous les parents de faire le maximum pour donner cette carte de rêver à leurs enfants, en les emmenant vers la lecture, parce qu'il n'y a rien de mieux pour l'imaginaire. C'est-à-dire que c'est une très bonne question, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginer, penser, réfléchir est devenu une denrée rare, parce qu'on n'a plus le temps et on ne peut plus faire le choix. Mais ne pas imaginer, ne pas réfléchir, c'est être à la merci de tout ce qu'on se prend dessus et d'en faire comme quelque chose d'acquis. Je ne sais pas si je suis assez clair. Et donc, moi, c'est ma mère. C'est ma mère qui m'a raconté des histoires, qui me traduisait. Oui, c'est ma mère. Et ensuite, les livres.
On peut lui rendre hommage, alors ? C'est important.
Oui, bah, c'est ce qu'on essaye de faire, hein, à travers ce qu'on arrive à aboutir. Je pense que c'est quelque chose qui doit les rendre fiers. Donc, oui, très important. Et par rapport au fait que vous chantiez et les poèmes, moi, ce que je dirais, c'est qu'à partir du moment où vous mettez quelque chose sur le marché, quelle que soit l'intention sincère, vous rentrez sur la loi du marché. Et qu'à partir de ce moment-là, ben, il faut agir comme dans toute démarche commerciale, mais sans s'abîmer. Voilà, c'est quelque chose que j'ai appris en commerce et que j'ai toujours séparé de l'art, mais quelque chose qui est indissociable de son exposition, de sa mise en avant. Donc ça demande beaucoup d'habileté, c'est très complexe et c'est un autre travail. Et pour les poèmes et la poésie, je dirais que déjà que tout le monde n'est pas prêt à lire de la poésie pour ce que c'est, déjà lire tout court, ce que je conseille, c'est de glisser la poésie dans les histoires, voilà, d'infuser une histoire, une narration avec cette poésie que l'on mettrait dans des passages, dans des poèmes tout court, c'est une meilleure manière de pouvoir les présenter. C'est comme quelquefois on veut soigner les enfants, on est obligé de mettre du sucre ou de glisser le remède dans quelque chose qui nous fait oublier la difficulté, quoi. Donc voilà, merci.
Merci à vous. Une autre question, qui a le micro? Oui. Ah, le micro ne fonctionne plus.
Allô ?
Oui, ça y est, ça fonctionne.
Bonjour.
Bonjour.
Ça serait pour savoir, quand vous écrivez, que ce soit un livre, un texte ou n'importe quoi, est-ce que vous avez une façon de penser spécifique ?
Bah, c'est une très bonne question. C'est-à-dire que, j'écris, j'essaie d'écrire le plus souvent possible, quelque chose que j'aime beaucoup faire, c'est écrire sur un sujet, l'oublier, et deux semaines plus tard, ou un mois plus tard, réécrire comme si j'avais rien écrit, et comparer. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut écrire souvent, et ne pas avoir peur de réécrire, parce que tout ne s'arrête pas à la réécriture, mais tout commence à la réécriture. Et je pense que c'est à force de réécrire qu'on reconnaît là où on veut vraiment aller, si on n'est pas sûr. Moi, j'ai quelque chose qui me dit que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc, s'il y a un doute, il faut l'effacer en cherchant. Voilà, et en trouvant surtout. Donc, oui, c'est important de réécrire. Merci.
Autre question ?
Bonjour.
Où ça ?
J'avais une question, là.
Ah oui.
Ma question, c'était si vous écrivez un second livre, est-ce que ce sera quelque chose de toujours dans le monde un peu imaginaire et irréel ? Ou ce sera autre chose ?
Non, ça sera autre chose. Ça sera autre chose.
Un polar ?
Je ne sais pas encore. Je ne sais pas encore. En ce moment, je pense beaucoup à quelque chose de drôle, avec toujours un peu de magie. Et qui, non, pas un polar, parce qu'il n'y aura pas, mais il y aura des choses à comprendre. Oui. Et non, c'est pas la même forme. Non, parce que j'ai beaucoup de modèles d'auteurs. Et là, en ce moment, pour écrire un livre, celui à quel je pense, c'est Telet. J'aime beaucoup Telet. Qui traite des faits historiques avec beaucoup d'humour et qui, pour moi, est un des meilleurs historiens de notre époque parce qu'il vous raconte des faits historiques que vous avez appris à l'école mais que vous avez oubliés. Et il leur donne vie avec humour et vous projette au moment même de l'histoire. Voilà. Et j'aime beaucoup ce style. Et donc, c'est à ce style que je pense pour mon prochain livre. Peut-être,
d'accord.
Dans l'espoir.
Et est-ce que vous comptez faire une biographie ou pas ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas.
D'accord.
Je ne sais pas parce que j'ai toujours l'impression qu'on ne peut pas tout raconter. Et les choix qu'on fait font que l'histoire est incomplète de toute façon. Et je ne sais pas si j'ai le meilleur point de vue pour raconter ma propre vie. Voilà.
D'accord. Merci beaucoup.
Merci de la question.
Devant, oui.
Moi, j'avais une question. Ça serait pour savoir si vous avez un projet actuellement en cours.
Ah oui, les projets, oui. Je suis en train d'écrire une série. Dès que j'ai le temps, je pense à ce long métrage que je suis en train d'écrire avec un ami. Et à côté de ça, je co-écris pour une chanteuse ou je participe à des albums aussi. Et je pense à développer des projets musicaux pour des plus jeunes. Voilà.
Et la série, c'est quelque chose qui va aboutir
Oui, c'est quelque chose qui va aboutir, oui. Enfin, j'espère.
Pour lequel vous serez juste scénariste ou aussi réalisateur
J'espère scénariste, parce que voilà, je crains de mélanger les pinceaux et que de toute façon, il y a des gens beaucoup plus compétents que moi pour ça. Voilà. Et c'est toujours intéressant de voir comment on met en image ce que vous avez imaginé. C'est pour ça que je suis toujours beaucoup plus surpris par ce qu'on me propose en image que ce que j'ai à proposer.
Là-bas.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Vous avez parlé beaucoup du temps et de cette nouvelle là sur le soleil qui disparaît que vous avez étoffé parce que vous aviez le temps que le confinement nous a offert.
Oui.
Et je me demandais comment vous expliquez le fait que cette nouvelle, vous n'en avez pas fait directement une forme musicale et que vous avez choisi, vous avez choisi d'en faire un roman justement,
oui.
Sans musique.
Oui.
Et que là, finalement, je viens d'apprendre que demain, vous alliez en livrer une forme musicale.
Oui.
Et donc, voilà, je me demandais comment vous expliquez le fait que,
alors
que vous venez de la musique, vous avez choisi une forme non musicale.
Je vis de la musique, mais ça part de l'écriture. Tout part de l'écriture. Et justement, c'est une période où je ne pouvais pas vivre de la musique. Et surtout, avant tout, je ne pouvais pas la faire vivre. Et vu que c'était une période indéterminée et que je sortais justement d'une grosse période uniquement musicale, ça me faisait du bien d'avoir à avoir affaire à une feuille et tout ce qu'elle a raconté, tout ce qu'elle peut contenir. Parce que lorsqu'on part sur un projet musical, il faut le texte, il faut la musique, il faut les musiciens, il faut le studio, il faut la tournée qui va avec. Enfin, c'est une grosse machine que je n'ai pas besoin de déployer pour un texte pur. Voilà. C'est-à-dire que l'emballage aujourd'hui coûte plus cher et est presque aujourd'hui plus important que le propos. Et c'est valable pour tout genre de produit. Et la musique n'y échappe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vendre de la musique pour elle-même, la faire exister pour elle-même, c'est compliqué. Et être sûr de faire entendre sa musique sans l'amener sur scène, sans la mettre en image, pour en faire parler, je pense que c'est très très compliqué. Et donc je préfère vraiment, à l'époque où j'ai écrit ce livre, je préférais me contenter, me satisfaire du temps que peut mettre un livre pour se diffuser, plutôt que de compter sur l'immédiateté que demande le succès d'un projet musical. Parce que proposer un projet musical, s'il ne marche pas dans l'heure, c'est terminé pour lui. Surtout si vous ne le faites pas vivre en l'amenant sur scène ou en allant faire de la promotion pour peu qu'il y ait des fenêtres pour vous. Voilà. Tandis qu'un livre, vous le sortez, quel que soit, peu importe ce qui arrive à sa sortie, il sera toujours là et il tombera toujours sur un lecteur. Et c'est pour ça que je préférais rester au texte. Hein, ouais.
Je pense qu'il y a alors, encore une dernière
question. Oui, j'allais dire une dernière question.
Là, une dernière, là, avec monsieur.
Là, juste avant, vous parliez de projets tels que une série et un long métrage. Ça parlerait de quoi environ ?
La série, mais merci, la série, ça parle d'un. C'est une adaptation de Cyrano de Bergerac, à peu près. Et ça parlerait de quelqu'un qui n'a pas du tout, qui n'a aucun code pour écrire, pour être adobé, qui n'a jamais rien écrit, mais qui se retrouve à écrire pour un jeune futur politicien. Voilà, avec tout ce que ça comporte. Voilà, c'est comme un cas social, un cas sos qui se retrouve à écrire pour un politicien. Voilà.
Je sens que ça va être assez
quelqu'un caustique. Qui ne trouverait même pas de travail okay. Avec sa gueule.
Et vous savez déjà où vous allez le faire sortir ou
ah non, pas du tout.
Pas du tout.
C'est en gestation et j'espère que ça va mener quelque part. C'est l'audiovisuel, c'est compliqué. On peut passer des années à écrire un projet qui ne sortira jamais. Et c'est des choses auxquelles il faut savoir. Voilà, j'écris des histoires pendant 7-8 ans qui ne sont jamais sorties. Okay. Et on peut écrire quelque chose en une après-midi et qui vous emmène beaucoup plus loin. Donc, il n'y a vraiment pas de règle. L'important, c'est de rester actif. De rester actif et de se rappeler qu'il faut terminer le projet.
Et également, le projet de long métrage que vous disiez... Excusez-moi, oui. Je parle beaucoup.
Oui, ah ben merci, c'est la curiosité. Le projet de long métrage, ben, c'est... disons que... je suis arrivé à une période de ma vie où je suis convaincu que le courant musical... qui fait partie de mes fondamentaux aujourd'hui, a assez d'expérience pour pouvoir raconter l'histoire humaine. Et donc, ça raconterait l'histoire d'anciens rappeurs de mon âge qui partagent une amitié avec des anciens membres de groupe qui se retrouvent 20 ans plus tard, avec les comptes à régler, les antécédents, les amitiés à relier, les enfants, la famille. Voilà. C'est des rappeurs 20 ans, 30 ans plus tard. C'est un peu ça.
Les poteaux.
Voilà. Voilà, les poteaux ou les poteaux à rabibocher.
Alors, malheureusement, on va devoir arrêter là, puisque donc il y a des gens qui suivent la journée professionnelle et elle se poursuit à l'espace Larit. Donc, il faut le temps à 17h de pouvoir y aller. Donc, on remercie Oxmo Puccino.
Moi, je vous remercie infiniment d'être là tous. Et je vous remercie d'avoir préparé ce moment parce que on ressent la recherche, l'intérêt.
Merci. Et juste donc demain 19h30 à Malraux, donc lecture, je ne sais pas s'il reste des places encore. Lecture, comment ? C'est à Dulin ? J'ai autant pour moi. Charles Dulin, voilà. Donc à 19h30, je pense qu'il reste encore des places. Il me semble avoir vu que c'était à 5€ seulement. Donc c'est accessible à tous. Donc allez-y. Et puis bonne suite de festival. Merci.
Merci à tous.